à tous, bienvenue dans l'émission Positive. Installez-vous confortablement, éteignez vos portables, laissez tourner le monde et mettez-vous au repos, au moins jusqu'à 14h. Cette semaine, c'est une émission spéciale collective puisque je reçois pour émettre et partager des ondes positives deux thérapeutes, deux de mes collègues de l'association Montalbanaise. Ressourcez-vous. Bienvenue et bonjour donc à Sylvie Ruscard, hypnothérapeute.
Bonjour
Sylvie. Et bonjour à Philippe Carole, praticien en médecine traditionnelle chinoise.
Bonjour Dorothée, bonjour tout le monde.
Alors les auditeurs connaissent vos voix, car aussi bien Sylvie et Philippe, vous êtes déjà venus individuellement au micro d'Ondes Positives et également en groupe. Donc aujourd'hui, c'est entre habitués que ça se passe.
Ouais. On va prendre un abonnement.
C'est ça.
Alors je commence selon mon habitude par annoncer notre message positif, le voici. Ralentissez, prenez le temps de vivre l'instant présent. Alors, il faut peut-être dire en préambule qu'en effet, on a tendance à vivre à 100 à l'heure.
On est tout le temps en train de penser à tout à l'heure, ce soir, demain, la semaine prochaine, les prochaines vacances, l'année prochaine.
Mm-hmm.
Et on projette tout le temps l'esprit plus tard.
Tous autant qu'on est, hein, c'est valable aussi pour les thérapeutes que nous sommes.
Exactement.
Alors, on est dans une société atteinte d'accélérite. C'est le psychiatre Christophe André, qui est bien connu, hein, qui a écrit plein de bouquins, qui utilise ce terme d'accélérite. Alors, elle nous vient d'où cette accélération de notre rythme de vie? Pourquoi on accélère en permanence, hein? Qu'est-ce qui nous fait accélérer?
Moi, je dirais qu'on accélère parce qu'on est surtout beaucoup dans le faire, en fait. Et vouloir faire, ça veut dire souvent vouloir faire plus et toujours plus. Et du coup, ben, on accélère pour aller le plus vite possible, pour cumuler.
D'accord. Et puis, on a des moyens de communication qui sont de plus en plus rapides aussi.
Oui.
Et c'est toujours plus. Le patron peut envoyer un mail à n'importe quelle heure. Nous, on peut envoyer des SMS à n'importe quelle heure.
Mm-hmm.
Et vraiment, le...
Il n'y a pas que le patron, il y a les clients qui envoient des demandes à n'importe quelle heure.
Oui,
mais nous aussi, enfin, je veux dire que nous, en tant que personne aussi, on peut envoyer des SMS à n'importe quelle heure. Et ça fait que le temps, ben, on ne le voit plus passer.
Oui, c'est vrai que l'accélération des moyens de transport et des moyens de communication nous donne cette impression de compression du temps. C'est pas tant que le temps va plus vite ou se compresse, mais c'est surtout que on peut faire, il est possible de faire dans un même laps de temps beaucoup plus de choses que on ne le faisait dans les temps plus anciens.
Oh ben, ne serait-ce qu'il y a déjà 15 ou 20 ans.
Mm-hmm.
Il n'y avait pas tous ces portables, il n'y avait pas Internet.
Et la question, ça serait de savoir justement si le fait d'accélérer les choses, c'est bien pour l'humain ou pas, en fait. Simplement, parce que l'idée, en faisant ça, c'est peut-être d'aller vers un mieux-être, mais est-ce que c'est vraiment ça, quoi?
Alors, si on constate et qu'on écoute ce que les gens disent, que disaient nos grands-mères, hein, si on parle des femmes, puisque je suis une femme, je vais regarder là où ça m'intéresse, que disaient nos grands-mères sur leur quotidien et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur notre quotidien? Est-ce que la femme d'hier se sent mieux dans sa vie que la femme d'aujourd'hui?
Ben, c'est tout le temps, dépêche-toi. Moi, je vois déjà les enfants pour aller à l'école le matin, vite, dépêche-toi, on n'a pas le temps, on est en retard. On commence dès le matin avec les enfants à leur donner cette habitude aussi depuis quelques années. Oui.
Oui. C'est le rouleau compresseur du quotidien.
C'est ça, et peut-être du coup l'idée de peut-être donner un petit peu de sens à ce que nous faisons. Pourquoi on le fait, quel est notre objectif en fait.
Alors tu disais, tu faisais un lien avec la santé, comment on est quand on va vite. Quels sont les premiers signes que l'on reçoit lorsqu'on est dans un rythme qui ne nous convient pas? Comment on sent qu'on est dans un rythme de vie, dans un quotidien qui nous compresse et qui du coup semble ne pas nous convenir?
Il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir l'énervement, un sommeil un peu compliqué, des ras-le-bol pour tout et pour n'importe quoi, alors que quelquefois il suffit de s'arrêter, de respirer et dire tiens, il y a un rayon de soleil. ça coupe et puis on peut repartir plus tranquillement.
Mmh.
Et aussi peut-être la notion de d'avoir la sensation de ne pas avoir le temps de faire les choses, alors que justement on cumule plein de choses et on a l'impression de parfois d'arriver à rien de ce qu'on veut faire. Quoi, en fait.
Et puis des fois aussi, en gagnant du temps, on se dit tiens, je vais pouvoir faire encore plus.
C'est ça.
Et oui.
Plutôt que de se poser, de respirer, de regarder ce qui se passe, de profiter de ce qu'il y a là maintenant.
Donc les signes, ce sont la fatigue physique, la fatigue psychique aussi,
oui, hein,
qui est souvent d'ailleurs plus difficile à vivre que la fatigue physique. La sensation d'être submergé, c'est ça, si
oui,
je comprends bien.
Oui.
Hein et puis ça va jusqu'à la sensation d'épuisement,
le burn-out,
qui est un thème d'époque, malheureusement. Et puis la dépression aussi, lorsque tout va trop vite et que on ne peut plus suivre le rythme,
oui,
hein,
et qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Hein.
Alors on pourrait se dire que lorsqu'on arrive à sentir ces premiers signes de fatigue, d'épuisement, de nervosité, d'irritabilité, qu'on commence à perdre le sommeil, etc. On pourrait se dire, bah, il suffit de calmer le rythme. Après tout, ça semble pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui fait que, généralement, on n'arrive pas à calmer le rythme et on attend d'atteindre des limites, pour le faire?
Mais peut-être que déjà, il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un rythme effréné et qui n'ont pas forcément conscience, au moins dans un premier temps, que ce rythme va leur nuire, en fait. Et ensuite, j'allais dire, une fois que le rythme est pris, les personnes ont souvent l'impression aussi qu'elles ne pourront rien changer à cet état de fait, quand on a des enfants, mettons, etc., qu'on s'en occupe, en plus du travail, des courses, etc., on ne voit pas comment on peut sortir de ça, en fait.
Mm-hmm.
Donc, déjà, on peut se sentir bloqué là-dedans et du coup, ne pas forcément trouver de solution à ça.
Mm-hmm. Oui, on n'est pas forcément conscient du rythme que l'on s'impose, dans lequel on est...
au moins dans un premier temps.
Ouais.
Et puis quand vraiment les signes arrivent, l'idée c'est, moi je le vois en thérapie, c'est-à-dire que il y a quand même des gens qui ont la sensation qu'ils ne peuvent rien faire contre ça, en fait.
Mm-hmm.
Voilà. Alors, en même temps, ils font quelque chose, si déjà ils viennent me voir, c'est qu'il y a déjà une démarche, mais... dans le quotidien, on va dire... les gens ne voient pas forcément qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses, en fait.
Oui, il y a une sensation de subir et d'être un peu victime d'un système.
Sûrement ça, oui.
Oui.
Pour ça que une solution que je propose souvent, c'est que, par exemple, quand on parle de ralentir ou de prendre un peu plus les choses en main, souvent les personnes ont l'impression qu'il va falloir tout changer. Et alors que peut-être une solution, j'allais dire immédiate, c'est de pouvoir s'octroyer des créneaux de quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes par jour, de recentrage sur soi pour casser un certain rythme, en fait, pour vraiment revenir sur soi, et ce qui permet de pouvoir ensuite faire les choses peut-être de façon un petit peu plus posée au final, quoi.
D'accord.
Oui. Moi, je propose des exercices de respiration, 5 minutes 3 fois par jour, mais même ça, il y a des gens qui ont du mal à se poser pour prendre 5 minutes pour eux.
Mm-hmm.
Parce que c'est tout le temps autour, les autres, voilà.
Alors, on va revenir sur les solutions, bien évidemment, on va en parler en détail. Je voulais dire aussi que bon, par rapport à cette accélérite et à la sensation d'accélération quand même, bon, évidemment, on n'est pas les premiers à se poser la question, on n'est pas les premiers à faire le constat du fait que tout va trop vite et qu'il faudrait peut-être ralentir pour veiller à notre santé. Et j'ai trouvé une thèse, hein, de Gilles Delannoy, qui est politologue et sociologue, qui d'ailleurs nous appelle les homo vélox. Hein, plutôt que les homo sapiens sapiens, donc homo velox, velox, vélocité, vitesse, hein, les hommes qui vont vite. Et il nous appelle aussi les tachysanthropes, donc ceux qui aiment ceux qui aiment tachycardie, on voit la racine, l'étymologie, ceux qui aiment le rythme. Hein, et il se trouve que nous aimons l'accélération pour plusieurs raisons. Alors, il y a les influences culturelles, hein, parce que ceux qui vont vite, ce sont les jeunes. Et ceux qui vont doucement, ceux qui vont lentement, ce sont les vieux. Or, on est dans une société où on doit rester jeune parce que c'est mieux d'être jeune. Donc, tant qu'on va vite, notre croyance est que bah, nous sommes jeunes. Voilà. Donc, il y a une influence culturelle aussi à aimer cette sensation de vitesse et d'accélération. Il y a l'influence aussi des émotions, bien évidemment, parce que la vitesse augmenterait les ressentis positifs. Voyez-vous, c'est étonnant. En fait, quand on va vite, eh bien, on se sent alerte, on se sent actif, on se sent enthousiaste. Et d'après des études scientifiques, eh bien, quand on va vite, ça améliore notre humeur. Voilà ce que j'ai trouvé. Et tout ça, évidemment, ben, il y a des raisons physiologiques à ça. L'accélération activerait les neurones dopaminergiques. Ces neurones-là, ils sont sensibles à tout ce qui est nouveau et intense. Hein. Or, la dopamine est associée à la dépendance, hein, à l'accoutumance et également à la récompense. Donc, notre cerveau serait en quelque sorte accro à l'accélération qui serait une source de plaisir immédiat, comme une drogue. Hein. Donc notre cerveau serait habitué à la vitesse, on demande toujours plus, comme une drogue. D'où cette sensation que bah, ça va de plus en plus vite et qu'on a envie de faire de plus en plus de choses dans le même laps de temps. D'ailleurs, on le voit qu'on aime que ça aille vite, parce que les parcs d'attractions, qu'est-ce que c'est ? Sinon des manèges qui nous donne la sensation d'aller vite,
hein, et d'exister.
Et d'exister.
Moi, je ferai deux remarques, c'est-à-dire que aller vite, c'est peut-être pas si néfaste en soi. La problématique vient quand ça va vite tout le temps.
Eh oui.
Voilà.
Sur la durée.
Et
ouais.
Par rapport à ce que tu viens de dire, ce que ça m'inspire, c'est que si on fait le lien entre aller moins vite et avancer dans l'âge, la vieillesse, on va dire, c'est peut-être une notion de quelque chose de subi. Alors que si on considère qu'on peut ralentir de façon volontaire, ça change un peu la perspective des choses. Hein,
c'est sûr, il y a des croyances à tricoter.
C'est ça.
Allez, on parlait de manège, la transition est toute trouvée avec la chanson qui arrive. Ça va tourner vite avec Brel et la valse à mille temps.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosselons amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps,
qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Quand t'es charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque au carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosse nos amants, 333 fois le temps de bâtir un roman au troisième temps de la valse. Nous valsons enfin tous les trois au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour, et à moi, et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de passer des vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, face aux amants, trois cents pour trois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Brel, la valse à mille temps. Vous écoutez l'émission Ondes Positives et cette semaine, je suis en compagnie de Sylvie Ruscard et Philippe Carole, mes collègues de l'association Ressourcez-vous. On ressort tout décoiffé de cette valse. C'est ce que l'on se fait vivre au quotidien, hein, et on comprend bien qu'il nous faut faire des pauses pour reprendre notre souffle, parce que d'avoir tourné et de tourner comme ça continuellement au quotidien, il y a de quoi perdre l'équilibre. Et perdre notre respiration. Et donc c'est pour cela qu'on se donne le message positif: ralentissez et prenez le temps de vivre le moment présent. Alors, le moment présent, quel paradoxe déjà à l'ère de l'immédiateté et de l'instantanéité, de devoir donner le conseil de vivre le moment présent. On pourrait presque se faire croire qu'on y est déjà dans le moment présent, vu qu'on parle avec des gens de l'autre côté de la planète, en instantané.
Oui, mais en même temps, en se projetant toujours dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va être, dans une heure, ce soir, la semaine prochaine.
Et je dirais que vivre le moment présent, c'est aussi se recentrer sur soi. Mm-hmm. Se recentrer pour revenir à sa source. Et puis finalement être en accord avec soi, en fait. C'est peut-être ça, à mon sens, que ça veut dire revenir sur l'instant présent, en fait.
Oui, alors
être conscient, pardon, de ce qui nous entoure aussi. Je voudrais juste citer un exemple. Je vais souvent marcher parce que justement ça me permet de revenir un petit peu vers moi. Et en même temps, je m'aperçois souvent que je marche et en marchant, je suis encore dans mes pensées, dans les pensées, voilà, qui me projettent ailleurs. Et de temps en temps, j'en arrive à m'arrêter, à me dire oh, maintenant, regarde ce qui t'entoure.
Profite.
Et voilà. Mmh. Et puis je commence à voir les fleurs qui poussent actuellement, à entendre les oiseaux, tout ça. Alors que je peux très bien passer une heure à marcher sans m'apercevoir de tout ça. Mm-hmm. Donc vraiment, c'est ça, vivre l'instant présent, c'est vraiment être conscient, je crois, de soi et de ce qui nous entoure aussi, en fait. Hein. Mais pas dans le faire, encore une fois, c'est dans l'observation.
Alors, tu es en train de nous dire que ce qui nous gêne à vivre l'instant présent, c'est le mental.
Certainement. Sur mon ordinateur en fond d'écran, j'ai un moine bouddhiste et avec une citation qui dit, j'espère que je vais m'en souvenir, lorsqu'on pense on ne perçoit pas et lorsqu'on perçoit on ne pense pas. Voilà. Et bon, je regarde souvent cette citation pour un petit peu y revenir et pour à nouveau prendre conscience que percevoir, c'est peut-être ça, être dans l'instant présent, en fait.
Même si on peut pas arrêter les pensées, on peut les mettre plus loin.
Mmh. Alors, tu nous parles de cette phrase du moine bouddhiste. Tout à l'heure, on disait les influences culturelles par rapport à aller vite et l'accélération. Il faut dire que nous baignons dans une culture cartésienne. Et Monsieur Descartes, entre autres, bêtises, il n'a pas dit que des bêtises, mais il en a dit certaines. Et il a quand même dit une phrase super importante que tout le monde apprend en cours de philo d'ailleurs. Je pense, donc je suis. Aïe, aïe, aïe. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être si on ne pense pas. Donc si le mental n'est pas en action. Et on baigne là-dedans.
Ouais.
Donc c'est sûr que c'est compliqué pour les gens que nous sommes dans notre culture d'entendre pour vivre l'instant présent, il faut que je me déconnecte de mes pensées. Et comme tu le dis, Sylvie, ça veut pas dire ne plus penser, mais ça veut dire les mettre à distance.
Tout à fait, oui.
Et donc, Philippe, tu nous dis que pour mettre à distance les pensées, il faut revenir aux perceptions.
Ça me fait partie, en tout cas. Ouais.
Ça commence par là.
Oui.
Oui, ça commence par là, par la perception de soi-même, de son corps, de,
voilà, de
l'endroit où on est. Oui.
Hein, c'est le rôle aussi, par exemple, de la méditation. Mm-hmm. Ça permet vraiment de revenir à soi et de ralentir. Alors, c'est pour le coup quelque chose, à mon sens, qui peut faire ralentir. C'est, ça peut être la méditation, par exemple.
D'accord. Donc, on parlera évidemment aussi de la méditation. Tu nous parles de perception, de c'est l'éveil des sens.
Oui.
Avant l'éveil de l'être. L'éveil des sens, quand tu dis je me balade et puis je regarde les fleurs et puis j'écoute les oiseaux, donc ça veut dire que je regarde pour de vrai, j'écoute pour de vrai ce qu'il y a autour de moi.
On revient aux cinq sens qui nous composent, enfin,
ouais.
Avec quoi on est venu au monde. Mm-hmm. C'est notre, la façon d'appréhender le monde, ça a été d'abord par la température, le toucher, l'odeur. C'est tout ça qu'on peut retrouver en ralentissant et en se mettant plus à l'écoute de l'instant présent.
Alors, en préparant l'émission, tu nous as donné un bon exemple, l'exemple du grain de raisin, pour illustrer une notion qu'on n'a pas encore abordée, mais que justement on va aborder, la notion de pleine conscience.
Oui. Oui, j'avais vu un reportage à la télévision sur la pleine conscience, et c'était un exercice à faire avec un grain de raisin sec. Donc, il fallait d'abord commencer par regarder ce grain de raisin, voir tous les comment il était fripé, après en le touchant, comment on le prenait entre les doigts, la texture, ce que ça nous faisait au bout des doigts, puis après le respirer, à quoi ça nous faisait penser, puis ensuite le poser sur la langue, le faire tourner dans la bouche pour commencer déjà à sentir les parfums, les différentes zones de la bouche, comment elles appréhendaient la texture de ce grain de raisin, et puis ensuite le croquer et le faire tourner dans la bouche pour en profiter pleinement. Et l'exercice pouvait durer jusqu'à 10 minutes avec un grain de raisin.
Mmh.
Ce qui faisait qu'on était vraiment conscient à ce moment-là de ce qu'on était en train de faire et de ce qu'on était en train de vivre et de ressentir.
D'accord. Et là, vous étiez vraiment en train de vivre l'instant présent.
Ah, tout à fait, oui, puisqu'on était concentré sur ce qu'on était en train de faire là, les odeurs, les parfums, la texture, physiquement, personnellement, oui.
Donc on comprend bien par cet exemple ce que ça veut dire que se réapproprier nos sensations. Hein?
Tout à fait, oui.
Et quelque part, réapprendre à percevoir ces sensations, ça nous permet d'en être éblouis. Philippe, toi, tu as un exemple avec un bout de jambon pendant un jeûne.
Exact, effectivement. Donc c'était un été il y a 2 ans où je faisais un jeûne avec ma compagne, un jeûne assez poussé en fait, et moi je faisais un jeûne que à l'eau en fait, et on était dans les Pyrénées, en plus on s'occupait de nous à travers, on se faisait beaucoup masser, voilà, on prenait le temps de se poser, de ralentir, parce que le jeûne parfois l'impose aussi, mais c'est à mieux aussi. Et on s'est retrouvé en fait à visiter un marché local avec des produits locaux, des merveilleux produits locaux, notamment moi qui mange sans lactose, on a acheté plein de fromage cette fois-là et aussi du jambon pour après le jeûne. Et en fait, comme on partait faire une petite balade suite à la visite du marché, J'ai pris deux petits morceaux de jambon de la grosseur de l'ongle du petit doigt. Et donc l'idée c'était de le manger une fois qu'on arrivait au bout de cette randonnée. Ce qu'on a fait, donc il faut dire que du coup on a mangé vraiment en pleine conscience, hein, puisque on était en plein jeûne. Donc l'idée c'était vraiment, c'était pas de se nourrir, mais d'appréhender ce petit morceau de jambon. Et donc effectivement, un petit peu comme le grain de raisin, c'était vraiment de l'observer et de le mettre à la bouche et littéralement de le laisser fondre en fait. Et en fait, la bouche a été envahie de parfums, de goûts. C'était absolument incroyable, quoi. Mm-hmm. Et ça permet, voilà, avec un tout petit morceau de jambon, de rien du tout, voilà. Et ça, c'est plus qu'un petit plaisir de la vie. C'est vraiment, je dirais presque d'une autre dimension, quoi.
Ouais. Goûter, voilà. Conscience.
C'est ça.
Alors d'ailleurs, tu as compris après cette expérience le concept de prière avant le repas.
Oui, deux choses d'ailleurs, c'est que après ça, je dis plus bon appétit, mais je dis bonne dégustation maintenant.
Oui.
Je crois que tout le monde a plus ou moins de l'appétit et bonne dégustation. Il y a déjà cette prise de conscience de déguster les choses. Ta question, c'était
la notion de prière avant le repas.
Oui,
que ça avait pris du sens pour toi.
Oui, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte aussi chez moi, quand je passe à table avec mes enfants. Mais parfois, tout le monde arrive avec sa dynamique, et du coup, les gens mangent parce que il faut manger, et puis ils repartent aussi secs. Et en fait, à plusieurs reprises, je leur ai demandé, en fait, qu'on se pose, qu'on ferme les yeux, qu'on fasse quelques respirations, pour en fait revenir à l'instant présent et justement casser le rythme qu'il y avait avant et pouvoir aborder le repas d'une autre manière en fait. Et du coup, un jour m'est venue l'idée que c'était le rôle de la prière avant le repas en fait. C'était permettre d'avoir une sorte de rituel qui permettait de vraiment, en plus souvent c'est une prière qui remerciait Dieu d'avoir mis ce qu'il y avait dans l'assiette, mais c'était ça, c'était vraiment de prendre conscience de ce qu'il y avait dans l'assiette en fait. Et
ralentir pour manger en conscience.
C'est ça,
hein.
C'est ça.
Mm-hmm. C'est sûr que si on mange devant la télé ou un écran d'ordinateur, on ne favorise pas la pleine conscience de ce qu'on est en train de vivre au moment présent.
Ou avec le portable qui va sonner à côté parce que il y a un SMS ou...
Eh oui, plus c'est mauvais pour la digestion, on le sait. Hein. Alors, dans nos milieux de développement personnel, thérapeutique, etc., on parle beaucoup de la notion d'ici et maintenant. Hein, d'ailleurs, on nous vend aussi dans les magazines du ici et maintenant à toutes les sauces, hein, il faut l'avouer. En fait, l'ici et maintenant voudrait simplement dire alors qu'il n'y a que le présent qui compte.
Ben, pour préparer le futur, avoir un présent plus agréable, plus confortable, plus détendu, prépare aussi un futur, même dans 5 minutes, dans 1 heure, plus agréable, plus confortable et plus détendu. Ça permet de prendre du recul.
Mm-hmm.
Simplement, on a souvent été éduqués dans l'idée que si on fait rien, on est des fainéants.
Mm-hmm.
Je crois aussi que l'idée de ici maintenant, ce n'est pas forcément vivre que dans l'instant présent, mais c'est peut-être de préparer le futur, mais un futur qui va nous correspondre. Parce qu'on sera revenu vers nous et on ira vers des choses qui nous, du coup, vont nous correspondre davantage.
Qui vont être en accord avec qui on est.
Qui vont être en accord avec nous.
C'est-à-dire d'abord nourrir le présent, satisfaire ce que l'on est au présent, en vue évidemment que ça se passe bien dans le futur,
oui,
on est d'accord. Mais c'est d'abord au présent que l'on doit, le présent qu'on fait passer en priorité. Dans le cadre d'une reconversion, par exemple, on voit beaucoup de personnes qui sont mal dans leur présent professionnel, qui se posent des questions, qui voudraient quelque chose de mieux pour le futur. Quels conseils on peut leur donner ? Est-ce qu'il faut ne réfléchir qu'au futur et à être heureux dans le futur ?
Non, parce que quelquefois, il y a des reconversions qui se font. Quand j'étais petit, je rêvais de faire ça. Oui. Et ça oui. peut être une indication, par exemple. Mm-hmm.
Et la meilleure reconversion que l'on puisse faire, c'est justement, à un moment donné, de se recentrer sur soi pour savoir vraiment ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous parle, quelle est l'énergie qui nous porte, et aller vers ça, en fait. Mm-hmm. Et j'allais dire, quelles que soient un petit peu les difficultés qu'on imagine, en tout cas, qu'il peut y avoir, parce que quand on est vraiment dans notre énergie, les choses peuvent aller, voilà, on peut, c'est...
Ça peut être beaucoup plus facile.
Voilà,
que
ça
ce
devient
qu'on
plus
pense.
Facile finalement, même si après il peut y avoir plein de difficultés à côté. Je pense à des difficultés matérielles qui peuvent être, qui peuvent arriver dans certaines reconversions. Mais c'est ça, c'est l'idée que quand on va vraiment vers ceux qui nous parlent vraiment profondément à nous, eh bien les choses finalement deviennent plus faciles. En tous les cas, nous correspondent vraiment. Mmh. Et c'est plus du tout la même énergie. On n'a pas besoin de développer une énergie qui va nous fatiguer, en fait. Voilà.
Et ce qui parle porteur. Vraiment en nous, parfois, correspond à nos rêves d'enfant.
Absolument.
Pour faire le lien avec ce que c'est tu disais, Sylvie.
Tout à fait.
Donc, dans le cadre d'une reconversion, les questions à se poser, c'est pas forcément de quoi a besoin le marché du travail aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui va me rapporter des sous, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire qui maintenant déjà me fait vibrer.
C'est ça.
C'est ça.
En premier lieu, oui.
L'idée, c'est ça. Et je sais qu'en préparant l'émission, j'avais cité un petit exemple aussi. Et un petit peu le qui montre un petit peu la différence éventuellement qu'il peut y avoir entre la pensée occidentale et la pensée orientale. C'est-à-dire que dans la pensée occidentale, ce qui compte souvent, c'est l'objectif. Et du coup, tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, on est dans une forme de frustration et où on se borne à atteindre cet objectif. Et puis une fois qu'on a atteint l'objectif, passé la satisfaction éventuelle d'avoir réalisé l'objectif,
on est obligé,
on est obligé de se refixer un objectif et ainsi de suite. Donc finalement, on passe notre vie dans l'insatisfaction permanente, alors que peut-être que la vision orientale serait plus de considérer que ce qui est important, c'est le chemin lui-même. Et que nous sommes notre propre chemin, en fait. Mmh. Et du coup, ben, le chemin va là où nous voulons qu'il aille, en fait, tout simplement. Mmh. Et d'où l'intérêt de l'instant présent et puisqu'on est déjà sur ce chemin-là.
Quoi. Oui. Et chaque chemin est composé de pas et chaque pas est vécu au moment présent. Et si à chaque pas on est satisfait parce que l'on vit ce qui nous fait vibrer au moment présent, alors le chemin est satisfaisant, on va dire.
Satisfaisant, hein. Oui.
Le maintenant, de toute façon, c'est le seul endroit où l'on puisse intervenir, là et maintenant.
Oui,
c'est le seul endroit où on peut décider. Le passé, c'est déjà trop tard, et le futur,
on ne sait pas ce qui va être.
Exactement.
Sauf qu'on détermine souvent le futur par rapport à nos expériences du passé.
Eh oui. Et
avec tout ce que ça a engendré, de craintes, voilà, de choses comme ça. Qui nous détermine des actions pour essayer souvent d'éviter dans le futur de reproduire un certain schéma.
Mm-hmm. Et auquel cas, c'est la peur.
Et voilà, ça peut être la
peur. Qui nous dicte le chemin.
Voilà, c'est ça.
Et se recentrer au présent permet de voir ses peurs et passer au-dessus. Enfin,
d'essayer de les évacuer.
Voilà, les évacuer, oui.
Là et maintenant, eh bien, c'est là et maintenant qu'on écoute Yannick Noah qui chante « Là ».
C'est pas humain, ça nous dépasse. On dit souvent à notre glace, que veux-tu que j'y fasse? On comprend bien que juste en face, des millions de pas nous s'entassent. Et puis entre deux guerres lasses, on finit et on débarrasse. Là, là, tout ce qu'on peut déjà. Là, là, déjà toi. Cela. s'abrit à la surface de nos inutiles carapaces. Dans l'obscurité de l'impasse, si tu savais ce qu'on ressasse. Dans le silence, un ange passe, peut-être faire le taf à notre place. Là, là, tout ce qu'on peut déjà. Là, là, déjà toi et moi. C'est pas demain, c'est pas là-bas, c'est là, là. Notre vie est là. Un geste, un mot, un premier pas. Voilà. Et le reste viendra.
Yannick Noah qui chante là, et c'est une chanson choisie par l'équipe de Ressources et Vous, qui est au micro d'Ondes Positives cette semaine. Sylvie Ruscard et Philippe Carole sont en ma compagnie. C'est pas demain, c'est pas là-bas, c'est là. Un geste, un premier pas, et le reste viendra. Un extrait de la chanson que l'on vient d'écouter. Alors justement, parlons des premiers pas, des premières choses que l'on peut mettre en place, chacun à sa façon, pour ralentir et prendre le temps de vivre l'instant présent. Alors tout à l'heure, vous nous avez déjà soufflé des idées. Sylvie, tu nous parlais de respiration.
Oui, reprendre le temps de respirer. Respirer calmement, tranquillement, en ressentant la sensation de détente que ça amène au corps. Et non pas respirer automatiquement, superficiellement, comme on le fait dans la vie de tous les jours, parce qu'il faut aller vite. Donc, on respire qu'avec le haut des poumons.
Ouais.
Et c'est réapprendre à respirer jusqu'au fond du ventre, pour pouvoir calmer, descendre le diaphragme, masser les intestins, pour remettre tout ça en ordre. Je conseille souvent un exercice qui s'apparente à la cohérence cardiaque, c'est-à-dire 5 minutes, 3 fois par jour, et 5 secondes d'inspiration et 5 secondes soufflées, sans pause.
Mm-hmm. Et donc une longue inspiration de 5 secondes, une longue expiration.
Voilà, 5 minutes, 3 fois par jour, mm-hmm. C'est le minimum. Et même déjà ça, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à le mettre en place. Donc au début, je leur dis, ben c'est vrai qu'il faut un peu se forcer pour changer de rythme. Mais comme c'est pour se faire du bien et se retrouver mieux ensuite, je leur dis, ben mettez une alarme sur le téléphone, trouvez des moments. Et puis quand l'alarme sonne, faites-le. Mm-hmm. Pas dire dans 5 minutes, dans 10 minutes, et le soir vous vous retrouvez et c'est pas fait.
Oui.
Voilà, mais juste au départ, pour d'abord s'obliger à ralentir, puisque ça n'est plus naturel dans la vie qu'on vit, et ensuite, en ressentant le bienfait que ça fait au corps, continuer parce que ça nous fait du bien et que ça nous fait plaisir.
Et oui, après, voilà. le corps a compris l'expérience et il le redemande.
Tout à fait. Et plus on le fait, plus c'est efficace rapidement dans n'importe quelle situation et ça permet de prendre du recul par rapport aux situations.
La respiration, c'est à la portée de tous, puisque tout le monde respire. Et puis, c'est notre propre rythme interne. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et plein de fois, on s'aperçoit qu'on vit en apnée.
Tout à fait.
En apnée, effectivement. Et puis, les émotions ont un impact sur la respiration. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'à travers la respiration, en modifiant la respiration, on va modifier l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Moi, je me rends compte aussi que... Effectivement, on vit beaucoup en apnée et par exemple, les personnes que je peux traiter par rapport à des douleurs, les douleurs engendrent énormément d'apnée. Dès qu'il y a douleur, il y a apnée en fait.
Oui, on retient la respiration.
Voilà, c'est ça. Et Et c'est assez fréquent que je dise aux patients respirez. Parce que pendant longtemps, ils sont en apnée et, par rapport à cette situation de douleur. Et je rejoins aussi Sylvie dans le sens où je pense qu'il est important de pas forcément vouloir chambouler complètement notre existence, qui pourrait demander vraiment beaucoup d'efforts. Pourquoi pas, mais en général, c'est difficile. Mais de vraiment de s'accorder des quelques minutes par jour, plusieurs fois par jour éventuellement, pour ralentir vraiment. Alors ça peut être à travers des respirations de type cohérence cardiaque ou tout simplement être dans l'observation des choses ou dans sa propre respiration, quelle qu'elle soit, juste l'accueillir. Mais c'est très important de casser ce rythme infernal qu'on s'impose souvent. Oui. Et qu'on impose à notre corps et à notre esprit, voilà.
Et plus on le pratique, ça, plus on se rend compte, enfin, par rapport aux clients qui l'ont appliqué, et ils me disent, mais je me surprends à respirer. Quand il y a un stress, quand il y a quelque chose, quand je sens que je suis débordée, aussi bien mentalement que physiquement, je me rends compte que je me mets automatiquement à respirer.
Oui. Alors ça, évidemment, ça ne veut pas dire, comme disait Philippe, de se mettre à vivre lentement. Hein.
Ah non, pas
ça
du
veut
tout.
Dire s'accorder des pauses. Et justement, pendant ces pauses, un exercice qui peut être fait, c'est s'observer, observer notre corps, hein, par exemple. Parce que c'est vrai que dans cette société où on aime aller vite et où tout va vite, on a tendance aussi à vouloir tout gérer vite. On a envie de gérer nos douleurs physiques vite, c'est-à-dire ne plus l'avoir cette douleur. Donc, ben, prendre un anti-inflammatoire ou que sais-je pour gommer la douleur. Guérir vite nos petits bobos du quotidien, hein, ou nos petites maladies du quotidien. Prendre le temps et ralentir, ça veut aussi dire donner du temps à notre corps de trouver un équilibre et puis aussi lui permettre de se guérir de façon lente et naturelle.
Et puis se rappeler qu'on a un corps, parce que parfois on l'oublie.
Oui. C'est ça. Moi, un petit exemple tout simple qu'on peut faire, c'est regarder quand on se pose où sont nos épaules. Et souvent, on s'aperçoit qu'on a les épaules très montées, hein, du fait du stress, du rythme qu'on s'impose. Et c'est d'abord dans un premier temps de constater ça, ensuite de descendre les épaules. Et avec ça, j'ai constaté que va suivre l'état psychologique aussi, puisque c'est toujours pareil, il y a une notion d'implication qui va d'aller de sens. Quoi, hein. Le corps réagit en fonction des émotions et les émotions réagissent en fonction du corps. Voilà.
Oui. Alors quand on monte les épaules comme ça, hein, c'est un peu la réaction de la tortue, c'est pour se protéger. Donc ça veut dire qu'il y a une sensation de danger quand même. Hein.
Mais il y a aussi le poids qu'on porte.
Et ouais.
Il y a tout ça, voilà. C'est
un exemple. Il y a plein de choses. Oui.
Il y a aussi le penser à son front, hein, parce que quand on est beaucoup dans le mental, on peut essayer de regarder la sensation qu'on a au niveau du front et notamment l'espace qu'il y a entre nos deux sourcils. Hein, et ça va nous donner une indication de l'état de tension qu'on a au niveau du mental.
C'est ça.
On parlait de regarder la nature. C'est un conseil aussi qu'on peut donner. C'est s'émerveiller. Se laisser le temps de l'émerveillement, parce que quand on s'émerveille, on constate qu'on fait comme une pause. Quand on est ébloui par quelque chose, il y a comme un instant de silence qui se crée. Ça peut être un silence extérieur parce que tout d'un coup on dit plus rien, mais il y a aussi un silence intérieur, comme si ça calmait le brouhaha intérieur, tout d'un coup d'être émerveillé ou de se sentir emporté par quelque chose que l'on voit.
Alors, et ça peut même arriver en ville. Il n'y a pas que la nature.
Ouais. Exactement.
Moi, j'aime bien aussi, par exemple, aller observer les herbes folles qu'il y a dans les fossés. C'est des herbes, souvent, on y passe à côté, on n'y prend même pas garde. Et quand on les regarde vraiment de très près, ben déjà, d'abord, on est dans l'instant présent. Et puis, effectivement, on peut s'émerveiller de voir. C'est cette merveille de la nature, quel que soit les herbes qui nous paraissent anodines, vraiment c'est très beau en fait.
Comme elles sont bien conçues, comme elles sont bien organisées et délicates.
C'est ça.
Et en même temps discrètes. Et Sylvie, effectivement, il n'y a pas que dans la nature. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans une dans la nature, à la campagne. Il y a aussi les personnes qui nous écoutent qui vivent en ville. Mais en ville, il est aussi possible de s'émerveiller, bien évidemment. Mais peut-être que l'intention compte. Aller flâner en ville en ayant l'intention de se laisser émerveiller. C'est pas la même chose que d'aller marcher en ville et
faire du lèche-vitrine. Quoi qu'on peut être émerveillé par de très jolies robes.
Flâner les sens en éveil, en tout cas. C'est conseil qu'on pourrait donner. Alors, il y a évidemment d'autres façons aussi de ralentir. Il y a la sieste, la fameuse sieste des anciens, qui est importante aussi.
Oui, mais qui ne correspond pas à tout le monde non plus. Donc, c'est savoir si on peut s'accorder ce temps-là. Et puis, tout dépend du travail qu'on fait aussi, si on peut se le permettre ou pas.
Tout à l'heure, on parlait de pause dans la journée et tu commençais à nous dire que c'est mal vu de s'arrêter.
Oui. Tout à fait, c'est très souvent mal vu parce qu'on a été éduqué dans l'idée que si on s'arrête, on est des fainéants, que on va pas être productif, que ça va pas rapporter d'argent, que voilà, les parents ont travaillé, les grands-parents ont travaillé, pourquoi toi tu travailles pas? Mais ça n'empêche pas de travailler, de faire des pauses. Au contraire, on prend du recul et ça permet d'être encore plus efficace. Même une sieste de 10 minutes permet d'être encore plus efficace. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises qui font des choses pour leur personnel, soit une salle de sport, soit une salle de sieste ou des choses comme ça, des massages assis, pour pouvoir avoir un personnel plus productif parce que détendu.
Oui, en même temps, l'idée, c'est peut-être pas d'essayer d'être plus efficace, mais d'être plus à nouveau vers soi.
Oui, mais là, je parlais de l'entreprise.
Oui,
dans l'entreprise, ça permet plus d'efficacité, c'est vrai, mais après, individuellement, est-ce que la quête est l'efficacité ou est-ce que la quête est le bien-être intérieur, le bonheur, on va dire intérieur.
On peut quand même essayer de le trouver malgré ça, je pense.
En tout cas, à chacun, chacun évidemment sa quête, et puis à chacun aussi de trouver une solution, sa solution pour ralentir le rythme de la journée si le rythme qu'il vit n'est pas le rythme qui lui convient. Donc il y a la sieste, il y a les temps de respiration, il y a l'émerveillement. Il y a aussi parfois tout simplement d'allumer des bougies et éteindre les lumières électriques chez soi qui permet de se mettre dans un rythme différent, ralentir aussi le mental, se mettre dans un cocon un petit peu plus feutré, simplement avec une bougie parfois, ça le fait.
Comme les anciens à la veillée.
Et puis aussi, et on peut méditer. Alors on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. C'est quoi la méditation? Selon vous, ce serait quoi votre définition?
La méditation, c'est se poser, accepter de ne pas faire, justement. Ça n'empêche pas, comme on disait, de penser. C'est à l'heure même de croire qu'on ne pense pas pendant une méditation. Sauf que quand on accepte de se poser, alors parfois c'est pas facile. Moi je sais que je médite régulièrement et pourtant il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile que d'autres et des jours où j'y rentre beaucoup plus facilement.
C'est plus difficile parce qu'il y a des fois où t'es plus dans le mental, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que mon corps et mon esprit ont du mal à se calmer justement. J'ai constaté aussi que souvent quand je me pose comme ça, au bout d'un moment arrive une situation d'inconfort et j'ai l'impression quand même que c'est mon mental qui essaie de me tirer de là et lorsque j'arrive à passer au-delà de ça, c'est-à-dire au bout d'une minute ou deux, c'est là que je plonge vraiment dans l'état méditatif en fait. Et la méditation, à mon sens, ça permet de se détacher du mental, c'est-à-dire le mental y est toujours, mais c'est un petit peu comme si on devenait un petit peu observateur de ça, ou même de se dire bon ben ok, il y a une partie de mon cerveau qui mouline tout le temps, je laisse faire, c'est son affaire quoi. Mm-hmm. Et puis le reste, ben je calme le reste quoi. Mm-hmm. Ou le reste se calme. Mm-hmm. Simplement, voilà.
D'accord.
C'est un petit peu ça.
Alors c'est ça, se centrer, c'est se être plus dans soi et mettre à distance le mental. Quand on parle de la notion de centrage.
Oui, parce que le mental, il nous joue beaucoup des tours.
Ouais.
Et le fait de voilà de le d'accepter de l'avoir, c'est important aussi. Ça fait partie de nous et on peut, j'allais dire, je sais pas si on peut faire ça mental, mais en tous les cas, il y est, il existe. Mais c'est de revenir et à travers la méditation, justement sur des ressentis, sur voilà, ça permet ça aussi de revenir vraiment dans le rapport à nous-mêmes, au corps, et ça nous permet souvent, moi je peux trouver des alors du coup je sais pas si c'est le mental qui travaille mais d'amener des solutions à certaines problématiques, même si je n'y pense même pas au départ, même si je ne rentre pas dans la méditation avec l'idée de résoudre certaines choses, eh bien les choses arrivent à se résoudre comme ça en fait.
Oui, moi je dirais que c'est aussi l'inconscient qui se met à travailler parce qu'on laisse le mental un peu plus loin. Et que il peut faire remonter les solutions parce que le mental
facilement.
N'occupe pas tout l'écran.
Mm-hmm. C'est ça, sûrement. Mm-hmm. Ouais.
Alors, je revenais sur cette notion de centrage, de centration, pour bien faire la différence. Se centrer, ce n'est pas se concentrer. Parce que généralement, on utilise ce vocabulaire concentre-toi. Ça veut dire mets toute ton énergie dans ton cerveau. Maintenant, faut se concentrer, va falloir produire, va falloir phosphorer. Hein. Et se centrer, ça serait plus une notion à l'intérieur du corps ou du cœur.
C'est ça. Hein. On peut se concentrer sur son cœur, justement, effectivement. Et être juste à l'écoute. L'écoute et l'observer, en fait, simplement. On est en position d'observateur. On peut faire la même chose sur la respiration. On peut s'écouter respirer. On peut s'aider de la musique aussi pour se mettre dans un certain état, je dirais, avec une musique qu'on trouvera appropriée, qui peut être des bols tibétains ou des choses comme ça, qui peuvent permettre de rentrer encore plus facilement dans cet état méditatif.
Bien justement, alors tu parles de musique pour aider à la méditation. Je vous propose d'écouter une petite musique de Fabrice Tonnelier. C'est l'album L'Instant Présent, ça tombe bien, c'est le sujet, et le morceau Encre de Chine. Alors sur cette musique de Fabrice Tonnelier, Le morceau s'appelle Encre de Chine. Ce qu'on voudrait vous dire dans Onde Positive, c'est que vraiment, il ne faut pas négliger ces moments de pause, d'apparente inactivité. Elles sont nécessaires à notre santé physique, psychique, émotionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que Ressourcez-vous propose un nouveau rendez-vous chaque mois. Je vous laisse en dire quelques mots sur ce nouveau rendez-vous proposé au public.
Ce sont des soirées une fois par mois de méditation, méditation présentée par des thérapeutes de l'association. Et chacun a sa façon d'aborder la méditation pour montrer que c'est pas juste rester assis, à rien faire, à rien penser. Ça, ce sont des méditations guidées. Et qui permettent à chacun de trouver la forme qui pourrait le mieux lui convenir au fur et à mesure des méditations qui seront présentées.
Voilà, ce sont des initiations, donc ça veut dire que c'est ouvert aux débutants, et c'est ouvert aux autres bien sûr, mais peut-être que le but premier c'est d'amener vers la méditation des personnes qui ne l'ont jamais pratiquée encore.
Oui, donc pour ceux qui ont envie d'essayer, c'est justement une bonne occasion. Donc la prochaine a lieu mercredi 15 juin à 20h30 au 28 avenue Chamy à Montauban. Et une participation de 5 euros est demandée. Ok, le message est passé. Et puis on peut dire également que évidemment ça c'est un nouveau rendez-vous proposé par l'association Ressourcez-vous, mais les anciens rendez-vous existent toujours. Toujours une conférence mensuelle à l'ancien collège le deuxième jeudi du mois. Et là en ce mois de juin, c'est jeudi prochain, le jeudi 9 juin à 20h. Et on va parler du rôle du corps. Alors, on l'a largement abordé aujourd'hui, ce que le corps nous donne comme message, justement, quand on n'est pas dans notre rythme, il envoie rapidement des signaux d'alerte. C'est sympa de l'écouter, C'est bon pour la santé d'écouter notre corps.
C'est mieux, oui.
Et ces conférences Ressourcez-vous sont, elles, gratuites, ouvertes à tous. C'est très convivial, donc on vous invite à venir nombreux. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie et Philippe.
Merci à toi.
Qu'est-ce que tu voulais rajouter Sylvie ?
Ben là, la conférence du mois de juin, c'est la dernière avant la reprise en octobre.
Oui. Voilà. Et oui, ensuite il y a la pause estivale en juillet, août, septembre, et on reprend nos activités en octobre. Alors justement, comme il n'y aura pas de conférences et de méditation pendant l'été, on invite tout le monde simplement à prendre conscience de leur corps et puis peut-être tenter ce qu'on a proposé aujourd'hui, parce que l'été et les vacances, c'est souvent un bon moment pour prendre de nouvelles habitudes, pour faire des essais et prendre de nouvelles habitudes.
Tout à fait.
Exact.
Oui.
Et je ne sais pas quand même s'il n'y a pas une méditation de prévue en septembre.
Ah, peut-être.
Donc en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est inviter les personnes à visiter le site Ressourcez-vous sur Internet.
Et s'inscrire à la newsletter.
S'inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Et ça permet de recevoir les informations des diverses activités que nous proposons, en fait.
Voilà. Et le site internet de l'association, c'est ressourcez-vous.eu. Et bien évidemment, on reprendra cette adresse dans le podcast de l'émission. Chers auditeurs, faites-vous du bien, ralentissez, prenez conscience du moment présent et vivez heureux. Et puis si vous avez besoin, réécoutez cette émission rediffusée dimanche à 20h ou en podcast sur cfmradio.fr. Merci Sylvie et Philippe.
Merci.
Je vous souhaite une belle semaine et à mardi prochain.
C'est bon pour ce que vous avez.
C'est bon pour ce que vous avez.
CFM. L'esprit rock.